Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on passe de deux mondes. Celui des chiffres à celui de l'humain. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Kenfaoui, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Baha?
Alhamdoulilah, ça va très bien. Alhamdoulilah.
C'est un prénom très poétique que vous portez.
Ouais, c'est un prénom assez rare. C'est mon papa qui me l'a donné et qui aujourd'hui me vaut aussi pas mal de compliments, je dirais. Et puis, vu ce que ça veut dire, c'est aussi lourd à porter, je dirais.
Oui, dans quel sens?
C'est la beauté, mais c'est la beauté
de l'âme.
Pure, ouais, beauté de l'âme. Et voilà, donc le fait de le porter, de l'incarner au mieux que je peux, c'est aussi un challenge au quotidien.
Ouais, il faut l'honorer, ce prénom.
Exactement.
Il faut l'honorer, absolument. Mais je pense que vous le faites bien, parce que vous avez un quotidien qui vous permet en quelque sorte de venir en aide aux autres. Vous êtes une spécialiste du mieux-être.
Alors, du moins, j'essaye. Alors, ça fait quelques années, effectivement, que j'accompagne le monde intérieur, alors que je viens du monde de l'entreprise. Je suis psychothérapeute et coach professionnel, et j'accompagne précisément sur la santé mentale au travail.
Absolument. Alors, vous dites, j'accompagne sur l'intérieur, alors que je viens du monde de l'entreprise, donc de l'extérieur, des chiffres, des réalisations. Racontez-nous un petit peu votre vie d'avant.
Très bien. Alors, moi, j'ai eu la chance, on va dire, de vivre sur plusieurs pays, entre plusieurs pays. J'ai grandi dans différents milieux, donc un environnement assez multiculturel. Et puis, j'ai fait mes études en France, notamment. Je suis expert comptable à la base, donc j'ai fait des études en école de commerce classique. J'ai travaillé en France et je suis rentrée en Maroc en 2010, où j'ai eu la chance d'intégrer de très, très belles entreprises multinationales, où j'ai grandi, formé, je me suis développée. D'un point de vue managérial, c'était une super belle expérience. J'ai beaucoup appris pendant une vingtaine d'années. Et puis, la vie a voulu qu'il y a quelques années, j'ai été appelée vers le monde de la psychothérapie. J'avais besoin de comprendre comment la psyché humaine fonctionnait pour des raisons personnelles, parce qu'une personne qui était très chère à mon cœur a eu un incident et j'avais besoin de l'aider. Et pour ça, j'avais besoin de comprendre. Donc, je me suis formée pendant 5 ans pour devenir psychothérapeute.
Mais quand vous dites « je me suis formée pour devenir », j'imagine que ce n'était pas c'est pas ce qui vous a motivé la première fois. Vous l'avez dit, avez dit j'avais besoin en fait d'aider une personne proche.
Exact.
Mais à quel moment vous êtes dit en fait, ce n'est plus seulement que pour aider une personne, mais c'est pour devenir psychothérapeute.
Alors parce qu'on me l'a renvoyé. Alors c'est vraiment mon entourage, que ce soit mon entourage personnel, familial et aussi mes équipes en entreprise. Quand je disais moi je suis en train de me faire une formation en psychothérapie. Parce que j'ai besoin de comprendre ça, mais c'est vraiment ce qui te ressemble. Tu as cette capacité à écouter, à être présent à l'autre, à être disponible, à accompagner. C'est vraiment ça ton truc. Et là, ça a vraiment fait tilt dans ma tête. Donc là, vraiment, je me suis embarquée là-dedans. Ça a duré 5 ans. Je l'ai bouclé il n'y a pas très longtemps. Et puis, est venue aussi cette envie de rester proche de l'entreprise et pouvoir accompagner en entreprise. Et c'est vrai que la thérapie, on n'y est pas encore. Hein. On parlait de thérapie en entreprise, c'est encore compliqué. Hein. C'est de l'ordre du tabou même. Et du coup, je me suis orientée vers le coaching professionnel.
Ok. J'ai envie de creuser un peu. Il y a des petites choses qui m'échappent, des petits fils qui m'échappent. D'abord, j'ai envie de savoir, est-ce que, quand vous avez commencé cette formation de 5 ans, est-ce que vous saviez que vous alliez lâcher la finance et passe à autre chose? Est-ce que la décision était déjà prise?
Pas du tout.
Non. Ok.
Pas du tout.
Donc, d'abord, rencontre avec la psychologie à travers l'accident de vie, l'accident personnel, donc dans la sphère très privée. Ensuite, Vous commencez à vous y intéresser. Et puis, vous vous dites, je veux faire une formation longue. Donc, ça prend 5 ans. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore en tête l'idée de faire, d'apporter ça au sein du monde de l'entreprise, d'en faire votre nouveau métier.
Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, j'étais en finance, en entreprise, je me plaisais. Pour te dire, j'ai arrêté le salariat il y a à peu près 6 mois.
Ok.
C'est-à-dire que j'ai continué dans l'entreprise en étant aussi accompagnant par ailleurs, parce que le monde de l'entreprise est cher à mon cœur et j'y trouvais du sens jusqu'à pas longtemps.
Alors, mais c'est jusqu'à il y a 6 mois, c'était toujours dans la finance ou bien dans l'accompagnement du et non, mieux-être.
Toujours dans la finance. J'ai toujours été dans la finance jusqu'au dernier poste.
Ok.
C'est vrai que moi j'ai toujours eu des équipes à accompagner. C'est vraiment cette partie-là que j'aimais dans ma fonction, c'est de pouvoir faire grandir les autres, les accompagner.
C'est l'humain.
Du sens dans ce qu'ils font. C'est vraiment l'humain.
C'est l'humain, c'est ça. Donc ça fait du sens finalement en fait d'aller vers cette formation. Décider de changer complètement de cap, décider de changer complètement d'orientation professionnelle, passer des chiffres à l'homme en fait, parce que quand vous avez fait vos études, c'était c'est des chiffres, c'est de la comptabilité, c'est concret, et passer à autre chose, ça vous a coûté quoi à vous en tant qu'humain?
Ça m'a coûté du temps, c'est tout. Parce que c'est vraiment un processus. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai évolué dans un environnement qui était plutôt porté par des projets complexes, des environnements exigeants, etc. J'ai appris ce que c'était que la performance, la stratégie, les défis collectifs, etc. Mais j'ai aussi beaucoup observé, de par ma posture de manager, beaucoup écouté, beaucoup ressenti ce qui se taisait. Ce qui se tendait chez les gens, ce qui pouvait les épuiser. Et vraiment, c'est ce regard-là, aiguisé un peu avec les années, qui est devenu plus sensible, plus incarné, qui m'a amené naturellement vers l'accompagnement. Donc, c'est vraiment une transition qui s'est faite de manière très fluide et très naturelle. C'est vrai que ça faisait déjà 2 ans que j'accompagnais et que j'étais en entreprise et accompagnant. Donc, la transition était assez simple. J'avais déjà aussi, par ailleurs, une activité que j'avais montée. Donc, la transition a été toute naturelle pour moi. Parce qu'elle s'est faite sur le temps.
Alors, votre proche, cette personne proche, elle va comment aujourd'hui?
Elle va très bien, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah.
Ouais.
Vous la remerciez, en fait, malgré...
Oui, je lui dis, je la remercie parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur quelque chose. C'est vrai que j'ai su peut-être m'accrocher à ça et aller prendre cette opportunité de la vie et la voir plutôt comme ça. Elle nous a fait tous grandir, cette personne. Tout l'entourage a grandi à travers ce qu'elle a vécu et ce qu'on a vécu avec elle.
Ok. Pendant cette période de transition, en fait, est-ce que vous voyiez, vous perceviez plutôt la dynamique au sein de l'environnement professionnel différemment?
Complètement. C'est-à-dire que mon regard sur l'entreprise changeait petit à petit. Et je commençais vraiment à voir tous les dysfonctionnements que je ne voyais pas avant.
Ouais.
Je commençais à voir l'entreprise comme... quand même comme un environnement où l'humain est une machine, où le corps humain est vraiment aliéné et du coup dépourvu de son âme, dépourvu de son énergie. Et tout ça, ça a aussi alimenté toute mon envie d'accompagner dans la santé mentale au travail et venir replacer de l'humain en entreprise.
Et j'imagine que vous arriviez aussi à percevoir tous les dysfonctionnements, en fait, qui étaient responsables aussi peut-être des mauvais résultats ou des résultats ou des objectifs non atteints, etc.
Clairement. Ouais. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une mauvaise compréhension de la notion de réussite en entreprise et le fait de se dire que c'est juste une question de performance, de capacité, de compétence, de travail acharné. C'est manquer une grande partie qui est cet alignement intérieur dont chacun a besoin justement pour performer, pour réussir.
Et vous en parliez avec vos collègues?
J'en parlais avec mon équipe.
Ouais.
Parce que c'est vrai que j'étais un manager un peu atypique, hein, mes équipes me le renvoyaient, qui était plutôt dans une dynamique où mes équipes comptaient plus que le reste. On pouvait me le reprocher, hein, d'un point de vue top management et tout ça. Mais j'atteignais mes résultats, j'atteignais mes objectifs. Du coup, je pouvais expliquer que moi, ça, c'est ma manière de faire en sorte à ce que les personnes travaillent dans un environnement sain, où ils ont toute la latitude pour justement performer, mais tout en étant bien à l'intérieur d'eux.
Comment ils vont maintenant que vous les avez laissés ?
Ben, ils vont bien parce que, disons qu'ils ont aussi on a encore pas mal de contacts. Il y en a pas mal que j'accompagne, hein, pour te dire, ou qui viennent à l'espace que j'ai ouvert pour justement profiter des ateliers de développement personnel et de coaching et de thérapie. Donc l'idée aussi, c'est vrai que je ne suis plus en entreprise, mais j'accompagne par ailleurs, différemment en entreprise. Et aussi, l'idée, c'est aussi de démocratiser
de bien-être,
cette santé mentale, bien-être, tout à fait.
Alors, par contre, ce qui m'impressionne, c'est que vous avez très vite lancé une structure. C'est-à-dire, vous avez quitté une entreprise pour lancer votre propre entreprise, au final.
Peut-être parce que j'y croyais à fond et que j'étais portée par ça. Alors, en fait, l'espace dont on parle, Kuhn, est vraiment né de ma propre expérience. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai pas un espace adéquat pour pouvoir accueillir mes clients, mes patients. J'ai essayé à droite, à gauche, dans différentes structures, mais ça marchait pas. Le cadre pour moi était très important. Et du coup, l'idée m'est venue de me dire, je vais créer un espace que je vais pouvoir partager avec les autres, parce que moi, je suis pas dans cet espace tous les jours, parce que j'accompagne une entreprise aussi, et offrir aussi une solution flexible, clé en main pour les professionnels de l'accompagnement, mais qui cherchent un espace adapté à leur pratique. Okay. Et c'est important pour moi aussi de pouvoir leur apporter cette liberté qu'on est censé avoir dans un environnement, dans un métier libéral. Hein. Et du coup, que ce soit structuré et en même temps leur apporter la liberté qu'ils recherchent. Mmh.
C'est comme un espace de co-working pour les professionnels de la santé mentale.
C'est tout à fait ça.
C'est ça.
C'est le premier community space pour les coachs et les thérapeutes au Maroc. C'est un espace, certes, où on se rencontre, on va co-créer ensemble au service de l'accompagnement de demain. Donc, on a des cabinets de consultation, on a des espaces pour les ateliers de groupe. Mais c'est surtout un collectif, c'est surtout une communauté. Parce que c'est des métiers, il faut savoir, qui sont très... on est seul. On est seul face à ses clients.
C'est vrai.
Et du coup, si on n'est pas entouré par nos pairs, on continue pas à grandir. On a besoin de se faire superviser, interviser. Donc, ça aussi, fait partie de l'éthique de l'accompagnant. Mais au-delà de tout ça, c'est le fait de aussi pouvoir co-créer ensemble. Parce que, voilà, il y a plein de ponts entre les pratiques. Je vous donne un exemple. Moi, en tant que psychothérapeute, j'aurais besoin de sophrologues, j'aurais besoin de personnes qui font du Reiki pour pouvoir accompagner mes patients, mais sur un autre volet. Donc, je vais pouvoir les recommander vers telle ou telle autre pratique. C'est vraiment ça aussi, c'est de pouvoir développer une communauté pluridisciplinaire.
Et justement, ça commence à prendre. Il y a cette communauté qui se crée.
Ça commence à prendre. On est depuis qu'on a ouvert il y a moins de 2 ans, on est à peu près 150 praticiens à être intervenus à Kuhn. Ça se développe de plus en plus. On essaie vraiment de démocratiser la santé mentale, le bien-être auprès des Marocains. C'est vraiment ça aussi, pour moi, c'est une question de mission de vie. Alors, on parle d'ikigai, par exemple. Moi, j'ai trouvé mon ikigai. C'est vraiment ça. C'est quand j'ai pu allier, c'est vrai, mon expertise managériale à cette envie de rapprocher la santé mentale des Marocains et de pouvoir créer ça dans un espace bienveillant, un espace où l'humain, justement, reprend toute sa place.
J'ai rencontré ça dans plusieurs de mes interviews, c'est qu'on est défini par sa fonction, en fait. On est défini par ses études, on est ensuite défini par sa fonction au sein de l'entreprise. Et toi, vous êtes monté dans les positions. Après, quand on se présente en société, on se présente en tant que qui ou quoi. Est-ce que ça, vous l'avez vécu?
Je le vis jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors, pour te dire, moi, mon dernier poste, c'est un poste de directeur financier dans une multinationale. Donc, c'est vrai que j'avais, disons, je faisais partie du leadership team. Donc, il y avait quand même une certaine position, on va dire, de responsabilité aussi. Aujourd'hui, je me retrouve, c'est vrai, entrepreneur. C'est aussi un autre challenge. Mais aujourd'hui, je me présente en tant que psychothérapeute et en tant que coach professionnel. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui me définit pleinement. J'accompagne l'humain à grandir, à se développer. Et je trouve que c'est, pour moi aujourd'hui, c'est beaucoup plus noble que ce que je pouvais faire avant.
Mais justement, quand on... Ah, ok, ça c'est toi. Ça, c'est vous. Ouais. Maintenant, quand les autres vous présentent, est-ce que des proches, par exemple, est-ce qu'on dit coach, mais avant, elle était dans la finance?
Alors, oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Maintenant, c'est vrai que mes proches ont vécu les années de transformation avec moi et ils ont vécu aussi comment j'ai changé, comment j'ai gagné en maturité, comment j'ai grandi. Comment mon approche et ma perception à la vie a changé. Et du coup, à quel point c'est beaucoup plus valorisant que ce que je pouvais aussi être avant d'un point de vue humain.
Oui.
Donc oui, clairement, ma fille ou ma sœur ou ma femme est psychothérapeute et coach. Elle a fait l'entreprise avant, mais elle est aussi entrepreneur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce qui me définit beaucoup, même quand les gens ne me connaissent pas, en me disant « Ah, c'est toi, Koun !» Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi l'espace qui prend quand même un peu plus de notoriété, qui aussi me définit.
C'est ça, en fait. C'est ça, c'est qu'on change de cap professionnel, mais on change avec son identité aussi.
Tout à fait, clairement.
Et ça, c'est compliqué quand, en fait, on est accroché à une position, on est accroché à un titre, on est accroché à... quand on est défini que par ça.
Oui, mais c'est un travail. Hein. Je peux te dire que j'ai passé l'été dernier à me faire accompagner vraiment toutes les semaines pour pouvoir travailler sur ça avant de pouvoir quitter l'entreprise. Parce que justement, oui, il y a un confort. Il y a un confort de poste, il y a un confort financier, il y a un confort en matière de stabilité, de sécurité de l'emploi. Clairement, quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est le grand saut, tout le monde le sait. Maintenant, pour l'avoir vécu, mais pour l'avoir travaillé, c'est-à-dire vraiment, je me suis fait accompagner de différentes perspectives en mode coaching pour pouvoir justement structurer les idées dans ma tête et monter mon projet, mais aussi en mode psychothérapie, justement pour pouvoir venir travailler sur mes croyances, pouvoir aussi aller voir quelles difficultés je pouvais ressentir et pourquoi, et avec le lien que ça pouvait aussi avoir avec mon mode de fonctionnement, etc. Tu sais, même ma relation à l'argent, c'est quelque chose que j'ai travaillé.
Magnifique.
Mais donc voilà, c'est vraiment ça, c'est un processus par lequel on passe, justement pour pouvoir transitionner de manière consciente et de manière convaincante. Mm. Voilà, on se convainc soi-même.
Alors, vous avez appris quoi sur vous à travers ces exercices, justement, ce travail, pour arriver à vous défaire de ces titres, de cet argent, de cette ancienne vie et démarrer autre chose? Mais sur le chemin, vous avez appris quoi sur vous?
Alors, le plus grand apprentissage dont j'ai pris conscience, c'est que beaucoup de choses ne m'appartenaient pas. Beaucoup de croyances par rapport au poste, par rapport à cette sécurité financière, etc., ne m'appartenaient pas. C'était plutôt des injonctions, qu'elles soient sociétales ou familiales, etc. Et il fallait s'en libérer et retrouver ses propres croyances. Qu'est-ce que moi, je crois de moi-même? Et j'ai développé, par exemple, une nouvelle notion de l'abondance. Que l'abondance, moi, aujourd'hui, c'est pas de se dire combien je vais facturer ou combien je vais chiffrer sur le mois, c'est plutôt cette notion de se dire il y a tellement à faire pour tout le monde qu'on a plutôt intérêt à s'y mettre tous ensemble. Et ce qui vient aussi accompagner toute ma perception pour l'espace aussi et l'espace communautaire.
Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Combien j'ai facturé et combien il y a de l'espace pour tout le monde ?
Alors, ouais, combien j'ai facturé, ça, c'est moi. Moi, je me dis, j'ai besoin de facturer le maximum pour pouvoir chiffrer.
Ouais.
D'accord. Une notion d'abondance, ma notion d'abondance aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de l'khair, tu vois, cette notion de l'khair, il y en a tellement partout qu'on devrait y aller tous ensemble pour chercher ça. Donc, par exemple, moi, je vais être dans une dynamique de création de liens. Je te donne un exemple. Une entreprise va m'appeler pour une intervention. Là où je sais faire, bah, très bien, je fais. Et si on me demande de ramener plus de praticiens qui font ça, bah, je fais appel à mes pairs. Mmh. Et puis là où je ne sais pas faire, je vais créer des liens. Je vais dire, bah, je vais vous partager le contact de telle personne qui fait de telle pratique ou telle pratique. Justement parce qu'on est tellement nombreux, on a tellement de choses à apporter face à un écosystème, un environnement qui est tellement en besoin, en demande, qu'il faut y aller ensemble.
Mmh. Alors, bah, justement, oui. Cette nouvelle vie, en fait, que vous êtes en train de vivre, il y a 10 ans, est-ce que si quelqu'un vous avait dit, tu sais, dans quelques années, tu vas changer de vie, tu vas changer de boulot, tu vas apprendre une nouvelle chose et tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, vous auriez réagi comment ?
Alors, changer de vie, ça ne m'aurait pas étonnée, parce que j'ai changé de vie tellement de fois dans ma vie depuis toute petite que c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie de mon ADN. Par contre, on m'aurait dit que j'allais devenir entrepreneur, jamais j'aurais cru. Mmh. Jamais. Bah, parce que, justement, ça ne faisait pas du tout partie de mes croyances.
Ouais.
Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est dangereux, c'est risqué, c'est pas fait pour tout le monde, etc. Restons dans le salariat, c'est tellement plus sécure. Et vraiment, j'avais cette croyance très forte qui ne m'appartenait pas, sur laquelle j'ai dû travailler. Donc, ouais, j'aime énormément changer de vie. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Du coup, ben, j'ai aussi plusieurs choses dans ma vie qui me nourrissent. Par contre, me lancer dans l'entrepreneuriat, ça, c'est quelque chose auquel je n'aurais pas cru, même pas 10 ans en arrière. Hein. Je pense que je serais revenue 3-4 ans en arrière, jamais j'aurais cru.
Ouais. C'est incroyable, hein, quand même, finalement, ouais. comment peu de temps peut nous changer, peut changer l'humain.
Ouais, c'est incroyable et en même temps, c'est tellement beau. Mm. C'est tellement magique de voir la beauté de l'humain comme ça, comment on peut être, on peut s'adapter, on peut créer, on peut innover. Et je trouve que c'est vraiment en ça que l'humain est juste hyper, en tout cas moi, hyper intéressant pour moi.
Mm. Ben, Kenfaoui, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi Yasmine, merci pour cet espace que tu ouvres à toutes ces voix de femmes avec beaucoup de douceur et profondeur. Merci infiniment.
Merci, merci infiniment à toi pour ta confiance. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média 1 et à tout moment à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.